Tuerie à l'arme blanche en Australie, 8 enfants tués, une femme blessée dans l'état du Queensland, sans raison connue pour l'instant. Des détenus au clair de lune ce matin à Maubeuge dans le Nord, la prison ayant été plongée dans le noir après une panne électrique, elle-même provoquée par un début d'incendie, ce qui veut dire aussi plus de chauffage, des serrures inopérantes. Bref, tous les détenus doivent être évacués et transférés vers d'autres établissements, en fourgon pour les plus lourdes peines, en autocar pour les autres, et tout se passe parfaitement bien, Antoine Sabag.
La deuxième vague d'évacuation débute ici à Maubeuge. Il reste encore 192 détenus à transférer et les premiers bus quittent la prison. Destination d'autres établissements nordistes, mais aussi au-delà, Amiens, Rouen notamment. Tout cela bien sûr sous haute sécurité. Les superflics des prisons, les ERIS sont là. Les forces de l'ordre également. Franck Lachaud est le sous-préfet.
Un escadron de gendarmes mobiles comptait 100 personnes. Plus 10 motards. Le but, c'est de faire bien dans de bonnes conditions. Donc on a pris l'après-midi pour scander les départs et avoir aussi, en tenant compte de la circulation, on est un jour de départ en vacances de Noël. Donc il faut aussi qu'on imagine que les convois ne vont pas circuler à des vitesses extraordinaires sur les destinations.
Dans le noir et sans électricité, la première évacuation de 200 détenus cette nuit s'est faite dans le calme, sans incident. Mais ce matin, les familles de prisonniers viennent devant la prison. Elles ne savent rien et s'inquiètent.
Je ne sais pas où est mon mari. Rien du tout. Depuis hier, je suis comme ça, je n'ai pas dormi de la nuit. Personne ne m'a rien dit.
On n'a pas de parloir, les colis de Noël, pareil. Déjà, c'est dur pour eux d'être enfermés pour les fêtes de fin d'année. Et là, ils ne savent même pas eux où ils vont être. Il paraît que c'est à minimum à 200 km d'ici.
Les détenus sont partis avec le strict minimum, quelques affaires de rechange et de toilette. Et pour beaucoup, ils vont se retrouver dans des prisons déjà surchargées. Ça devrait durer une dizaine de jours, le temps de réparer le système électrique détruit par l'incendie. Devant la prison de Maubeuge, Antoine Sabag, France Bleu Nord pour France Inter.
12 milliards pour Alstom, 4 milliards pour les actionnaires. Des actionnaires qui, fort logiquement, ont donc approuvé tout à l'heure la cession de la branche énergie de l'entreprise à l'américain General Electric. Pour le PDG d'Alstom, Patrick Cron, qui le dit au Figaro ce matin, le groupe français n'a plus la taille critique pour rester compétitif sur le secteur de l'énergie. C'est donc 70% de son chiffre d'affaires qui passe aux Américains. 12 milliards dont l'essentiel sera réinvesti. Le reste, 4 milliards revenant donc aux actionnaires, lesquels se sont surtout inquiété ce matin des faits de corruption visant Alstom, qui pourrait d'ailleurs avoir passé un accord avec la justice américaine. De là à penser que la cession à General Electric est liée, il n'y a qu'un pas, François Desplan.
Eh bien, ce pas a été franchi à plusieurs reprises lors de cette Assemblée Générale. Plutôt compliqué à vivre pour Patrick Cron, le PDG d'Alstom. Cela a commencé dès la première question posée par un petit actionnaire.
Quelle est votre responsabilité dans ces accusations de corruption et dans l'estimation de cette amende de 700 millions de dollars?
On parle ici des accusations de pot de vin qui font l'objet d'une enquête très poussée aux États-Unis. Alors, faut-il y voir un lien avec cette vente à General Electric? Bien sûr que non, répond Patrick Cron, visiblement très agacé.
Ça me fait penser, vous vous souvenez qu'on avait gagné le contrat au Maroc sur le TGV, la presse le lendemain matin, c'est ouais, ils ont gagné le contrat, c'est pas parce qu'on a fait une bonne offre, surtout pas, c'est parce qu'on a perdu le Rafale, et donc c'est une compensation. Arrêtez de vous arracher le cerveau à trouver des arguments qui n'existent pas pour justifier une opération qui a sa propre logique et sa propre évidence.
Mais les questions ne s'arrêtent pas pour autant. Une actionnaire demande même s'il songe à s'expatrier à Singapour pour échapper à la justice. La question de trop pour Patrick Cron, qui ne préfère pas répondre, ou plutôt à sa manière.
Parce que c'est un tel bobard qu'à la limite, simplement l'aborder me donne mal à la tête.
Mais la fièvre est très vite retombée puisque les actionnaires ont approuvé à plus de 99% la vente des activités énergie d'Alstom à l'américain General Electric.
François Desplan avec Thomas Robin. On reviendra sur cette affaire de corruption dans Secret d'Info ce soir à 19h20. Mathieu Aron et Jacques Monin, en précisant que le PDG d'Alstom, Patrick Cron, sera demain matin l'invité d'On n'arrête pas l'écho sur France Inter à 9h10. Un petit Français qui rachète un gros Américain, pas banal, c'est l'entreprise Atos, qui récupère la partie informatique du groupe Xerox pour 1 milliard de dollars, 855 millions d'euros. Xerox, c'est plus de 9000 salariés dans 45 pays qui font donc entrer Atos dans le top 5 des sociétés de services informatiques mondiales. Une nouvelle filière du supérieur pour les bacs pro. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour tous les étudiants, de plus en plus nombreux, qui suivent les enseignements professionnels et se retrouvent souvent en difficulté dans le supérieur. Un bac pro sur deux poursuit ses études, mais leur taux d'échec est très élevé. D'où cette proposition qu'a faite ce matin Geneviève Fioraso, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et la recherche, Sonia Bourhan.
Aujourd'hui, un bachelier sur trois est dans la filière professionnelle. Or, le bac pro seul ne suffit plus. Les employeurs exigent plus de qualifications et la moitié de ces jeunes poursuivent des études supérieures. 18 000 d'entre eux arrivent à l'université. La secrétaire d'État Geneviève Fioraso veut mettre fin à ce qu'elle appelle un massacre social.
À l'université, dans des filières non sélectives, ils ont 3 chances sur 100 de réussir seulement leur première année, alors même qu'ils appartiennent à des familles souvent modestes, à 80% à des familles aux revenus modestes, d'où l'idée de revaloriser la filière professionnelle. Aujourd'hui, on y va trop souvent par défaut. C'est une filière qui a toute sa valeur. Regardez nos voisins allemands, nos voisins suisses. Ils ont réussi à donner ces lettres de noblesse à cette filière.
L'objectif de cette nouvelle voie, délivrer des diplômes de niveau licence ou master. Une mission sera chargée de faire des propositions. Elle sera dirigée par Christian Lhermignot, ancien président de la conférence des directeurs d'écoles d'ingénieurs.
Si on regarde ce qui se passe à l'étranger, il y a beaucoup de pays dans lesquels, par l'alternance, on arrive facilement, je dirais, à faire en sorte que des étudiants et des élèves au départ rentrent dans des filières professionnelles où ils pratiquent un métier en même temps qu'ils développent leurs compétences et qui finissent, effectivement, ces étudiants-là, par arriver à un niveau de licence, à un niveau de grade master. En France, on considère que c'est impossible. Donc c'est ça sur lequel on va travailler.
Des expérimentations seront mises en place dès la rentrée 2015 et généralisées en 2016.
Autre projet en réflexion, un projet de loi sur le droit d'association professionnelle. C'est François Hollande qui vient d'en charger les ministres de la Défense et de l'Intérieur. Il les a chargés d'y réfléchir, ce qui ouvrirait une brèche dans l'interdiction faite aux militaires français de se syndiquer. Attention sur les routes, ce soir et demain, les départs de Noël ne sont jamais les plus importants de l'année, mais quand même, la SNCF va multiplier de son côté les trains disponibles. Mais pour les adeptes des sports divers, cela dit, pas vraiment de quoi se précipiter. Il est possible que la neige ne soit pas au rendez-vous. Seule une quarantaine de stations ont ouvert. Dans les Pyrénées, la situation paraît plus favorable, mais dans les Alpes, on craint le pire. À Morzine, en Haute-Savoie, à 1000 mètres d'altitude, la station va lancer demain sa saison d'hiver, mais sans trop y croire, Anne Lamotte.
C'est critique, critique, très critique.
Laurence, postière à Morzine, fait la grimace. Il a bien un peu neigé avant-hier, mais ça n'a pas suffi.
Le sol n'est pas froid, donc la neige ne tient pas, donc ouais, c'est catastrophique.
La piste du Plénet, par exemple, qui descend jusqu'à la station, est marron et verte, de la terre, des pierres, de l'herbe.
Ils font du ski à roulettes ou du vélo?
Est-ce que vous êtes inquiet?
Pas du tout.
Et pourtant, à l'Office du tourisme, le président Georges Coquillard reste hyper optimiste. Il le promet, demain à Morzine, une dizaine de pistes seront accessibles pour les débutants. La neige, on va la chercher, la gratter là où il y en a, explique-t-il.
C'est-à-dire qu'ils vont la chercher sur les côtés? Et puis ils enneigent des bandes de neige. C'est responsable de remontée mécanique, c'est des professionnels. Hein. Les pisteurs, c'est des pros. Quand on n'a pas beaucoup de neige, et ben, ma foi, ils se débrouillent pour en amener. Et je pense qu'il n'y aura aucun souci à ce niveau-là, je leur fais confiance.
Et les skieurs confirmés, eh bien, ils pourront toujours aller sur les pistes d'Avoria, juste en face, insiste Georges. Seulement à Avoria, pour l'instant, 15% seulement du domaine skiable est ouvert. Et les skieurs sont loin d'être convaincus.
C'est de la neige extrêmement collante et très lourde. Pas forcément le top, quoi. Et j'espère que le Papa Noël va amener de la neige.
Voilà, et tellement peu de neige que la station d'Avoriaz a prévu d'établir des quotas de skieurs pour éviter une trop grande affluence sur ces pistes. Allez, s'il n'y a pas de neige, c'est peut-être l'occasion d'aller au musée. À Paris, c'est une exposition rare qui ouvre ses portes au Muséum d'Histoire Naturelle, les Trésors de la Terre. Exposition des plus beaux cristaux de sa collection, la plus importante du monde, mais qu'on ne pouvait plus voir depuis 10 ans, la galerie de minéralogie ne pouvant être restaurée par manque de moyens. Parmi les pièces étonnantes de cette collection des cristaux géants du Brésil, une pépite d'or de 5 kilos ou encore le grand saphir de Louis XIV. Une expo à visiter en famille, Sophie Becherel.
Le bélemnite, un céphalopode disparu il y a 66 millions d'années, figurait au menu de certains dinosaures marins. Pourquoi un bélemnite au milieu d'une exposition de minéraux? Parce que sa coquille, dissoute, s'est transformée sous les effets du temps en une magnifique opale irisée. Elle est présentée à côté d'autres pièces par leur forme, leur couleur, dans l'exposition. D'une dizaine d'espèces à l'origine de la Terre, on compte aujourd'hui 5000 minéraux différents, nés de processus chimiques particuliers. Cristiano Ferraris, chargé de conservation au muséum.
Si on prend un élément qui est connu par les gamins, par tout le monde, le graphite. Le graphite, il est le constituant principal de votre crayon papier. Mais on peut très bien imaginer que si on prend ce crayon papier et si on avait la possibilité de l'amener dans les profondeurs de la Terre, ce graphite, il pourrait se transformer en diamant.
Les diamants, le grand saphir de Louis XIV, les parures de Marie-Antoinette, on les voit aussi dans cette exposition qui a choisi un double parti pris, la pédagogie et l'esthétisme. La présentation, sobre, cache en fait un éclairage individualisé qui a donné du fil à retordre à Stéphanie Daniel.
Il y a des minéraux, il y a 3 têtes qui sont braquées au-dessus. D'autres, il y en a juste une pour 5 minéraux parce que ça brille trop ou c'est trop fort. Et là, pour les gemmes, il faut cartonner.
La collection du muséum provient de dons royaux, de collectionneurs privés et plus récemment du mécénat d'entreprise. Mais aujourd'hui, grâce à une opération de financement participatif, quiconque peut contribuer à l'enrichir.
Et puis 2 livres complètent cette exposition. Roger Caillois, anthologie d'une collection aux éditions Xavier Barral. Et le beau livre de la Terre de Patrick de Wever aux éditions Duno. Peut-être le fin mot de l'affaire Sony, le film « L'interview qui tue » dont le géant japonais a repoussé la sortie dans les salles américaines. On a raconté ici même hier l'attaque informatique dont Sony avait été victime, probablement orchestrée par la Corée du Nord, dont le leader est ridiculisé dans ce film. Un film qui en fait n'a rien de drôle, c'est en tout cas ce qu'écrivent les dirigeants de Sony Pictures eux-mêmes dans un échange de courriel qui a lui aussi été piraté, accréditant l'idée qu'en fait, s'ils ont retiré le film, ce n'est pas par peur d'une attaque informatique, mais par peur d'un fiasco public. Voilà qui rend l'histoire beaucoup plus ordinaire. Après Thierry Henry, c'est donc Éric Abidal qui annonce à son tour sa retraite de footballeur pour raisons personnelles. L'ancien international, aujourd'hui à l'Olympiakos d'Athènes, avait quitté le Barça en 2013 après avoir subi une greffe du foie. Et puis il était revenu au plus haut niveau et même, pendant un temps, parmi les Bleus, Éric Abidal, qui n'est pas si âgé que ça, il a 35 ans. Voilà qui nous amène au sportif de l'année, comme tous les jours, depuis 3 semaines, avec aujourd'hui le dernier de la liste, mais c'est le tirage au sort qui l'a voulu, Mayedine Mekissi, champion d'Europe d'athlétisme sur 1500 mètres, un titre qui fut pour lui une belle revanche, Franck Ballanger.
Le 14 août dernier, Mayedine Mekissi aurait dû remporter le 3e titre européen de sa carrière sur 3000 mètres steeple. Le Rémois a d'ailleurs franchi la ligne d'arrivée en tête, mais puisqu'il avait retiré son maillot dans les derniers mètres, alors qu'il avait course gagnée, Mekissi a été disqualifié. Lui, qui voulait réussir le doublé 3000 mètres steeple 1500 mètres, a donc reporté tous ses espoirs et ses frustrations sur le 1500 mètres. Résultat, une victoire. Mayedine Mekissi est quand même reparti de Zurich avec une médaille d'or.
Ça m'a donné la rage pour courir aujourd'hui et je suis fier de ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'étais un guerrier. J'avais aucune pression, j'ai jamais eu cette sensation-là. J'étais tellement déterminé que j'avais le sentiment que rien ne pouvait m'arriver. J'étais tellement costaud. Regardez la course. Aujourd'hui, j'étais un tueur et j'ai su me remobiliser en 48 heures pour devenir champion d'Europe sur 1500 mètres. Et c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver. J'aurais pu marquer l'histoire encore plus avec ce doublé, 3000 steeple, 1500 mètres. Mais moi, pour moi, dans mon cœur, c'est moi le double champion d'Europe. Tout le monde sait très bien que j'ai gagné le steeple et j'ai gagné le 1500. Et ça, c'est le plus important.
Depuis 2008, Mayedine Mekissi est monté sur tous les podiums des grandes compétitions internationales auxquelles il a participé. Et l'été prochain, à Pékin, au championnat du monde, il sera encore le plus sérieux rival européen des Kenyans sur 3000 mètres steeple.
Franck Ballanger, le journaliste sportif de l'année, pour voter et donc désigner le sportif Radio France de l'année. Parmi les 15 candidats, il faut aller sur le site franceinter.fr avant le 31 décembre.
Je reviens d'Afrique et avant du Brésil. J'y ai vécu des moments terribles. J'ai vu des personnes souffrir de la faim. On sait que les conditions climatiques et les guerres entraînent des ravages. Mais on ne parle jamais des expulsions des petits paysans, du pillage de leurs terres, de leurs ressources, qui sont aussi des causes de la faim dans le monde. Faites un geste pour aider les petits paysans à conserver leurs terres pour nourrir leurs familles. Donnez sur ccfd-terresolidaire.org. CCFD Terres Solidaires. Tous humains contre la faim.
All right, gang. Whiplash.
France Inter présente Whiplash, grand prix et coup de cœur du public au festival de Sundance et de Deauville. Un film de Damien Chazelle au cinéma le 24 décembre.
You know who I am?
Yes, sir.
À 19 ans, Andrew rêve de devenir le meilleur batteur de jazz de sa génération.
Now, are you a rusher? Or are you a dragger? Or are you gonna be on my fucking time?
Repéré par un chef d'orchestre intraitable, il va tout sacrifier pour réussir. Retrouvez Whiplash dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Oh, elle a l'air bonne, ta sauce au fromage, peux en avoir un peu?
Au fromage? Mais ce fromage, c'est du roquefort! Habit de lumière de toutes les volailles, sublime écrin de soie de tous les crustacés, vertueux trait d'union entre tous les légumes.
Et moi qui appelais ça du fromage. La sauce au roquefort, s'il te plaît.
Oh, Roquefort, le goût haut et fort.
Pour votre santé, bougez plus.
Le foie gras du Sud-Ouest avec Cyril Lignac.
Alors Cyril, ce foie gras du Sud-Ouest, c'est pas toi qui l'as préparé pour une fois?
Ah, tu sais, quand je rentre dans le Sud-Ouest, c'est mes amis qui font la cuisine. Et ça fait plaisir de se retrouver autour d'un foie gras. Parce que tu vas voir, les saveurs du foie gras du Sud-Ouest, c'est inimitable. Et en plus, ça se partage.
IGP Canara Foie Gras du Sud-Ouest, c'est écrit, c'est garanti. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Aquitaine.
France Inter, 13h30, c'est la marche de l'histoire. Jean Lebrun et son témoin du vendredi.
Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
Le témoin de ce vendredi, Jean-Louis Debré, et tout de même Michel, et la constitution de la Ve République.
La Ve République est officiellement née. Monsieur Michel Debré, garde des Sceaux, a apposé le sceau de l'État au texte constitutionnel. C'est cette dernière formalité qui donne force de loi à la Constitution, qui porte 25 signatures. Celle du président Coty, du général de Gaulle et celle des 23 ministres. La Ve République est entrée dans l'histoire.
C'était en octobre 1958, dans son ministère de la place Vendôme, Michel Debré, le garde, apposait les sceaux sur la Constitution dont il avait rondement assuré la gestation aux côtés du général de Gaulle. Aujourd'hui, la question est souvent posée, quelle part de responsabilité les institutions ont-elles dans la crise du politique que nous traversons? N'est-ce pas plutôt les hommes qui les appliquent qui sont à mettre en cause? Parmi eux, on voit présentement le président de l'Assemblée nationale composer une commission pour la réforme de la Constitution, tel ou tel autre militer pour une 6e République. Beaucoup d'idées sont jetées en l'air qui, sauf coup d'éclat, ne pourront retomber en réalité puisque, à la différence de 58, aucun consensus ne peut être espéré entre les différentes forces politiques survivantes. Au fond, la réforme du mode de scrutin serait moins difficile. François Mitterrand, afin de limiter les dégâts en 86, avait réintroduit la proportionnelle pour l'élection des députés, faire élire une assemblée ingouvernable composée d'un tiers de gauche, d'un tiers de droite et d'autant d'extrême droite serait encore le moyen le plus commode pour bouleverser les équilibres d'une constitution qui bénéficie encore d'une légitimité unique dans l'histoire des républiques. Michel Debré doit se retourner dans sa tombe de n'avoir pu faire du scrutin majoritaire un article intouchable.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Jean-Louis Debré, monsieur le président du Conseil constitutionnel, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez un adolescent de 14 ans en 58. Le Conseil constitutionnel n'existait pas sous la 4e République. Vous ne pouviez imaginer avoir le destin que vous avez eu, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, député aux côtés de votre frère et de votre père en 1986. J'ai un malin plaisir quand même à vous mettre en porte-à-faux, vous, président, qui ne pouvez, par vos fonctions, vous exprimez tout à fait librement en évoquant ces questions chaudes d'actualité et de révision constitutionnelle.
Écoutez, non, je vais être très prudent, mais quand on reprend l'histoire de France, on se rend compte que les institutions ou la réforme des institutions est souvent un alibi pour les politiques pour ne pas s'interroger sur leur comportement. J'entends aujourd'hui dire il faut une 6e République. Vous savez qui est le premier qui a lancé cette idée? C'est un professeur de droit, quelque temps après que la Constitution de 1958 ait été approuvée par le peuple, le professeur Duverger, car il expliquait à toutes les facultés et à tous les étudiants que jamais la Constitution de la 5e République ne survivrait à De Gaulle. De Gaulle est parti, la Constitution de la Ve République a permis l'alternance politique, plusieurs alternances politiques, a permis la cohabitation. La Constitution de la Ve République a traversé des crises économiques, des crises politiques, des crises sociales, elle est toujours là. Et la même chose qu'on entendait sur la 4e République pour empêcher la 4e de se réformer, les hommes politiques préfèrent regarder les institutions, critiquer les institutions, plutôt que de s'interroger sur leurs responsabilités.
Oui, mais enfin, votre père, Michel Debré, il s'est toujours intéressé aux institutions. Juste une note personnelle cette fois, Jean-Louis Debré. Vous parliez de ça à 13 ans, 14 ans, à table, quand la famille écoutait non. La famille du raton sur Radio Luxembourg. Vous non. étiez non, non. la famille de la colère, vous d'ailleurs, une famille d'opposants.
Non, non, mais, j'avais 14 ans et un enfant de 14 ans ne s'intéresse pas aux droits constitutionnels. Nous nous intéressions par contre à la France, puisque toute notre éducation, toute notre formation était la France. Je me souviens, j'ai un souvenir d'enfance, c'est que tous les 18 juin, on nous emmenait au Mont-Valérien. Et je me souviens parfaitement, le 18 juin 1958, alors que tous les autres 18 juin auparavant, il y avait très peu de monde autour du général de Gaulle. Quelques vieux compagnons fidèles et que le général passait lentement et nous tapotait sur la joue. Et tout d'un coup, 58, beaucoup de monde, des préfets, des militaires, des journalistes. Et j'ai su, à ce moment-là, j'ai compris ce que c'était que la courtisanerie politique.
C'était après le 13 mai, le coup d'éclat des putschistes militaires à Alger, le risque d'éclatement de la France, l'appel de René Coty, le président de la République, au général de Gaulle, président du Conseil. Michel Debré est garde des Sceaux. Il raconte dans ses mémoires que quand il arrive à Matignon, il est tout à fait étonné parce que toutes les portes qui s'ouvrent font surgir des visages amis et il se dit « alors là, on est au pouvoir ».
J'ai été l'interlocuteur du général de Gaulle en matière constitutionnelle. Je n'étais pas le seul, mais j'ai été le permanent. Depuis 1945, 44 peut-être même, j'avais pris des positions claires au moment de la constitution de la 4e République. N'avais pas cessé de combattre les institutions. Je n'avais pas cessé de réfléchir au problème de la Constitution de demain. On oublie aussi que les anciens présidents du Conseil, M. Guy Mollet, M. Fulin, M. Antoine Pinet, en avaient, si j'ose dire, ras-le-bol de la Constitution de la 4e République. Ras-le-bol de quoi? Ras-le-bol du sentiment qu'un gouvernement républicain tel qu'il existait sous la fin de la 3e et 4e n'était pas un gouvernement, que c'était une sorte de commission que les parlementaires méprisaient, que les parlementaires pouvaient rejeter d'un moment à l'autre, qu'il n'y avait aucune possibilité d'avoir une politique claire, une politique définie, une politique longue, une politique réfléchie, et qu'à chaque instant, le gouvernement risquait d'être balayé pour une question subsidiaire.
Alors, on a oublié ça. Il veut faire vite, le général de Gaulle. Michel Debré a préparé les choses depuis longtemps. Il n'est pas question que ce soit le Parlement, sous forme d'assemblée constituante, qui prépare lentement une constitution, mais en même temps, il y a un consensus autour des principaux acteurs avec nombre d'anciens dirigeants de la 4e République.
Oui, mais mon père vient de le dire à l'instant, beaucoup d'hommes de la 4e République éminents en ont assez de cette constitution de la 4e qui est organisée pour qu'il n'y ait pas d'État, pour qu'il n'y ait pas de pouvoir. N'oublions pas qu'en 10 ans ou 11 ans de 4e République, il y a eu 10 gouvernements. C'est-à-dire que la moyenne durée d'un gouvernement, c'était 8 à 9 mois. Si on met bout à bout tous les moments où la France était en crise ministérielle, pendant un an, il n'y a pas eu de gouvernement. Et le jeu principal du Parlement était de défaire le gouvernement. Et d'ailleurs, toutes les mesures qui vont être prises par mon père, ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé, est justement fait pour permettre au gouvernement de gouverner. Les constituants de 1958, mon père, le René Capitan, le général de Gaulle, analysaient l'histoire de la 4e et la 3e République comme la volonté permanente des parlementaires de gouverner à la place du gouvernement.
Et vous donc, avez été président de l'Assemblée nationale et votre père était aussi parlementariste d'une certaine manière dans la mesure où il voulait que le Parlement contrôle. Ce qu'il refusait, c'était que le gouvernement gouverne.
Oui, il y a une disposition dont on parle peu qui était essentielle pour mon père dans la Constitution de la 5e République, c'est la séparation entre le domaine de la loi et le domaine du règlement. La loi, elle doit être pour ce qui est essentiel, les libertés, les impôts, les grandes questions. Et je me souviens, il me citait toujours, quand je faisais mes études de droit, il me dit, tu vois, comment la 4e était à ce point déréglée. Il y avait eu une loi pour dire quelle était la taille des poissons qu'on devait rejeter dans les rivières quand on pêchait. Et il me dit, mais c'est pas la loi de faire ça, c'est les règlements. Par contre, la loi, elle doit déterminer les impôts. Par contre, la loi, elle doit dire quelles sont les grandes libertés. Et l'article 34 qu'il a voulu, c'est énumère tous les grands sujets qui doivent être votés par le représentant du peuple, le reste étant du pouvoir gouvernemental.
Alors, vous citez Capitan, parce qu'il a été votre maître, vous citez Debré et De Gaulle, mais il y avait tout un comité de légistes. Il y a d'abord eu un groupe d'experts, il y avait beaucoup de gens du Conseil d'État. Et ensuite, il y a eu le Conseil consultatif constitutionnel. Nous sommes à la Radio Nationale, très nationale, vous allez entendre, le 4 août 58.
L'événement le plus important en matière de politique intérieure aujourd'hui, c'est la venue du général de Gaulle devant le Comité constitutionnel consultatif. Jean Rey, avez-vous des précisions sur cette séance qu'on peut qualifier d'historique?
Oui, le général de Gaulle est arrivé à 15h15 au Palais Royal, siège, vous ne l'ignorez pas, du Comité constitutionnel consultatif, au milieu d'un grand concours de journalistes, de photographes et de cinéastes. Malgré le mauvais temps, le public attendait le général et quand sa voiture est apparue, les cris de « Vive de Gaulle » ont éclaté dans la foule et les applaudissements furent fort nourris. Le président du Conseil, accompagné de M. Houphouët-Boigny, ministre d'État, et de M. Debré, garde des Sceaux, a été accueilli à son arrivée par le président du Comité consultatif constitutionnel, M. Paul Reynaud. La séance du comité s'est ouverte aussitôt d'après, mais comme vous le savez, les débats se déroulent à huis clos. Il était 16h40 quand le général a quitté le Palais Royal, accompagné par M. Paul Reynaud. Quelques instants plus tard, on apprenait que l'exposé du président du Conseil avait fait sur le comité une impression profonde.
Une impression profonde. Le vieux Paul Reynaud, moi je pensais que c'était Michel Debré, le premier gaulliste. Mais non, le premier gaulliste qualifié comme tel en 58, c'est Paul Reynaud.
Je vais revenir un tout petit peu à ce que vous avez dit. Il faut bien voir, et on ne le dit pas assez, que le premier projet, avant même que les experts, le Conseil d'État n'interviennent, etc., a été élaboré dans des entretiens précis entre mon père et mon général et le général de Gaulle.
C'est pas mal, mon général. Mon général, vous souvenez, c'était mon général. La formule du canard.
Non, mais on l'appelle mon général. On a toujours appelé mon général. Et ainsi, par exemple, le général a convoqué mon père qui devait rédiger en disant voilà les questions qui sont pour moi essentielles. Je veux que le président de la République, dans certaines circonstances, puisse faire appel au peuple par le référendum. Je veux que le président de la République ait le pouvoir seul de dissoudre l'Assemblée nationale. Je veux que le président de la République soit élu par un suffrage qui dépasse celui des simples députés et sénateurs. Bref, ce que je veux dire, c'est que naturellement, il y a le comité consultatif constitutionnel, naturellement, il y a le comité d'experts. Mais avant ça, il y a eu une réflexion institutionnelle pendant toute la 4e République, d'ailleurs qui s'est marquée, et le général de Gaulle l'a montré, par le discours de Bayeux et par le discours d'Épinal. Puis, au fur et à mesure qu'on arrive vers la constitution de la 5e République, les notes entre mon père et le général se multiplient, on le voit bien dans ses archives. Puis, en 1958, il nomme mon père garde des Sceaux pour rédiger. Alors, il y a tout un habillage, comité consultatif constitutionnel, ministre d'État, mais il y a sans arrêt des entretiens pour dire, de Gaulle dit, voilà ce que je veux. Et en réalité, on voit très bien deux choses. Que la constitution de la 5e République est faite de deux parties. Une partie qui concerne le président de la République. Et là, c'est de Gaulle. Et c'est de Gaulle qui, ayant été révolté par l'incapacité du président Lebrun d'incarner l'État, d'être l'État au moment en 40, veut que le président de la République ait tous les pouvoirs. C'est en réalité la transcription du fil de l'épée où de Gaulle dit face à des événements, l'homme de caractère fait face et fait front. Ça, c'est disposition. Et le reste sur le parlementarisme rationalisé, c'est mon père.
Oui, je veux bien. Il y a le général avec un G majuscule, comme l'écrit dans ses mémoires votre père, et Michel Debré. Mais moi, j'ai entendu deux fois, trois fois le nom de Paul Reynaud. Il y a les ministres d'État qui appartiennent aux différents groupes politiques. C'est étonnant d'ailleurs, ce rôle de Paul Reynaud, parce que le premier des gaullistes, c'est Paul Reynaud, c'est pas votre père.
Je sais pas si c'est le premier des gaullistes, c'est le gaulliste. Hein. Le premier des gaullistes, c'est le général de Gaulle.
Vous avez aussi entendu, dans l'archive qu'on a passée, Jean-Louis Debré, le journaliste dire « Le général a fait une forte impression. On ne peut pas dire que l'opinion publique ait été beaucoup informée des délibérations constitutionnelles pendant été où vous passiez vos vacances, à la mer.
Oui, » D'abord, ministre d'État, vous avez, il y a un autre personnage qui a joué une influence, qui a un rôle important, c'est René Coty. Et René Coty, qui a été reçu par le général de Gaulle et qui a été reçu très souvent par mon père pendant cette période, c'est à lui qu'on doit, par exemple, la disposition permettant à titre exceptionnel au Premier ministre de suppléer le chef de l'État pour la présidence du Conseil des ministres.
C'est quand même bien le moins que le président de la République.
Mais je dis pas que c'est
le moins. Il était toujours président de la République, soit reçu par le président du Conseil et le garde des Sceaux.
Le général de Gaulle sait ce qu'il veut. Il sait d'une part comment il veut créer l'architecture de cette nouvelle institution. Il nomme un de ses fidèles, mon père, pour rédiger, et celui-ci associe à cette rédaction institutionnellement les ministres d'État. Je prends un exemple, si vous voulez. Il y a un certain nombre de dispositions que mon père n'est pas arrivé à faire intégrer parce que les ministres d'État n'ont pas voulu. Deuxième remarque, on ne s'intéresse pas beaucoup, mais il faut bien voir que cette constitution, elle est rédigée entre le mois de juin 58 et la fin septembre 58. Et donc, les Français sont en vacances et surtout, ils viennent de vivre des mois extrêmement difficiles avec les événements d'Algérie de mai. On a évité la guerre civile. De Gaulle s'est fait attribuer par l'Assemblée nationale des pleins pouvoirs en respectant un certain nombre de principes. Maintenant, c'est à lui d'agir, car on sait dans ses principes que le projet de constitution sera soumis au vote du peuple.
Alors, avant le vote du peuple, la politique étant un art et nécessitant donc de la mise en scène, André Malraux et d'autres proposent d'organiser une réunion au pied de la statue de la République de Dalou, place de la République, pour l'anniversaire de la proclamation de 1870. Le ministre de l'Intérieur est contre.
Tous les ministres de l'Intérieur sont contre toutes les manifestations. Je l'ai été. C'est toujours le moment où il risque d'y avoir des incidents, donc on est contre les manifestations.
Pour occuper le temps, dites-vous, on demande au radical Berthoin, qui est un des ministres, de prendre la parole le premier. C'est sans importance.
Mais De Gaulle n'est pas encore là.
Ouais.
De Gaulle n'est pas encore là. Et vous savez, une des caractéristiques du général De Gaulle, c'est d'avoir probablement le premier compris que la politique, c'était aussi un métier du spectacle. Et qu'il fallait organiser un spectacle. Il faut solenniser le spectacle. Alors, qui mieux que Malraux doit faire la scène? Alors, on met Malraux juste avant De Gaulle, comme on le fera pour le transfert des cendres de Jean Moulin quelques années plus tard. Et cette voix de Malraux...
Attendez, non, la voix de Malraux, elle est, figurez-vous, vous vous souvenez pas, vous n'étiez pas là, vous avez regardé la télé. Jacques Sigal, notre réalisateur, lui, il était là, place de la République. Il commence très bas, Malraux.
Oui, très bas, et il monte.
Il monte, il a beaucoup de mal à tenir ses lunettes sur son nez, et voilà.
Au-delà des textes juridiques, fussent-ils les meilleurs, vous choisirez entre la volonté de résurrection nationale et l'effacement de notre pays. En réponse à un homme qui tient de l'histoire le droit de nous appeler en témoignage, mais dont l'entreprise ne peut tenir que de vous sa légitimité. Écoute pour la France, République de bronze, la réponse de la vieille nef glorieuse. Ici Paris, honneur et patrie, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire. Vous allez entendre le général de Gaulle.
Elle est née dans le Paris 1790, comme une rose épanouie au jardin des fleurs de lys. Marianne a cinq enfants qu'elle élève de son mieux. Marianne a maintenant quelques rides au coin des yeux. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
À l'époque où d'aucuns réclament une sixième république, l'écriture de la constitution de la cinquième en 1958 avec Jean-Louis Debré, actuellement président du Conseil constitutionnel. Vous avez tous les objets de collection que vous aimez, un vieux vinyle d'André Malraux et des Marianne, je crois que vous collectionnez les Marianne, c'est bien connu. Suit le référendum, c'est sans surprise, parce que, à part quelques excentriques, comme les communistes, Pierre Mendès France et François Mitterrand, on n'a pas retrouvé d'archives de la campagne électorale officielle diffusée à l'époque par la radio, pratiquement tout le monde, et pour le oui, et le pourcentage de oui est de 79%, avec très peu d'abstention.
C'est une adhésion à De Gaulle, c'est une adhésion à la Constitution, et c'est la preuve pour les gaullistes que une nouvelle pratique institutionnelle est possible.
C'est là que vous faites vos débuts de colleur d'affiches ?
Alors, quand j'ai pas d'affiches, je me souviens, on avait 14-15 ans et on était allé un soir à 4 ou 5 copains, on avait trouvé de la Chaux et on avait marqué oui à la France et une croix de Lorraine et pendant toute la journée du lendemain, on était passé devant pour voir notre exploit tellement on était content d'avoir fait ça.
Oui, mais vous avez expliqué vous-même que vous ne compreniez pas grand-chose à la chose juridique, c'était le cas de beaucoup de Français, vous venez de dire que c'était une adhésion au général de Gaulle. Je vous rappelle la phrase d'un grand juriste de l'époque, Georges Vedel. Avec la constitution suisse, De Gaulle aurait gouverné pareillement.
Oui, sûrement, il a raison. Mais la caractéristique de la constitution de la Ve République, contrairement à ce que tous les grands professeurs ont pu dire, c'est qu'elle a survécu à De Gaulle. Personne n'imaginait en 58 qu'elle allait survivre à De Gaulle. On disait « elle a été faite pour lui ». Or, démonstration. De Gaulle démissionne. Il y a une vacance du pouvoir. Il y a une élection. Pompidou meurt en cours de mandat. Il y a une élection. Il y a un affrontement entre les gaullistes et les centristes. Giscard est élu. Puis alternance politique après 20 ans de droite.
Michel Debré, votre père, raconte dans sa mémoire d'ailleurs qu'à cette époque, on l'invite à faire un débat avec François Mitterrand, c'est juste avant l'alternance de 81.
Armes égales,
s'il vous plaît. Il pense que ça va être chaud. Eh ben non. Oui. Mitterrand reconnaît déjà à l'avance l'intérêt des institutions de la Ve.
Et quand il a été président de la République, Mitterrand, qui a été le principal procureur des institutions de la Ve République, va être celui qui va probablement le mieux les appliquer. Et il va se fondre dans le moule de la Ve République de façon extraordinaire. Et il va donner à la fonction présidentielle une dimension qui correspond à ce que souhaitaient De Gaulle et les gaullistes.
On ne sait pas ce qu'il advient d'une constitution quand on la rédige.
Non, mais quand on a rédigé cette constitution, non pas pour des considérations idéologiques, mais par une analyse très précise des causes du dérèglement institutionnel de la 4e et de la 3e République, on est sûr qu'on ne va pas commettre les mêmes erreurs.
On ne sait pas ce qu'il advient. On ne pensait pas non plus qu'il allait advenir ce qu'il est advenu de l'instance que vous présidez, le Conseil constitutionnel, qui est devenu beaucoup plus importante que votre père ne l'avait prévu. Je ne sais pas d'ailleurs ce que votre père vous dirait aujourd'hui.
Je ne sais pas, mais je n'ai pas l'habitude de lui faire parler. Et ce qui est certain, c'est que l'institution que je préside n'a rien à voir avec celle qu'il avait imaginée. En 1958, le rôle du Conseil constitutionnel est d'être une institution politique qui veille en réalité au bon fonctionnement du régime parlementaire et qui doit éviter que le Parlement n'intervienne dans le domaine du gouvernement et fasse respecter l'article 34 et 37. Or, aujourd'hui, nous sommes devenus une véritable juridiction constitutionnelle avec la possibilité d'annuler des lois déjà votées et appliquées. Cette réforme qui a été mise en application par moi. On l'avait voulu avant que je n'arrive. Badinter l'avait souhaité, Mitterrand l'avait refusé, parce que Mitterrand, comme mon père probablement, c'est une époque du parlementarisme où on considère que la loi, pour reprendre l'expression d'un très grand juriste du 19e siècle, est l'expression de la volonté générale et qu'il n'est pas question qu'on bouge et qu'on modifie cette expression. Les choses changent, le monde change, et qu'aujourd'hui, la question prioritaire de constitutionnalité qui permet à chaque citoyen de nous saisir de l'application même d'une loi très ancienne, eh bien, c'est un droit nouveau. Eh bien, les choses évoluent.
Vous n'avez pas l'habitude de faire parler votre père, heureusement, parce que peut-être vous maudirait-il. Nous, nous avons pris l'habitude dans cette émission, depuis que vous êtes notre invité, d'entendre votre père une dernière fois.
Et j'ai toujours dit, j'ai toujours regretté que l'on dise que la Ve République était uniquement une constitution. La Ve République est une constitution, c'est vrai. Une constitution différente de celle de la IIIe et de la IVe dans son principe. Mais la Ve République était aussi un esprit de volonté, une volonté de faire en sorte que la France soit une grande nation, une nation au premier rang. Et c'est en cela, me semble-t-il, que tout ce qui a été fait mérite d'être noté. Étudier.
La Constitution, on sait ce qu'il advient d'elle, et la Cinquième est beaucoup plus qu'une Constitution. Et ce qui est important, ce sont les hommes qui appliquent la Constitution.
C'est essentiel. De mauvaises institutions ne peuvent pas aboutir à une bonne politique, mais une bonne Constitution n'arrive pas forcément à aboutir à une bonne politique. Il faut que celles et ceux qui appliquent les institutions de la République respectent un certain nombre de principes et une certaine conception du rôle et de la place de l'État.
Dites-moi, Michel Debré, ça vous pouvez le raconter, avait une conception très stricte de l'économie, de l'éthique. Quand on est ministre, on paye ses notes d'électricité, on est extrêmement strict. Votre mère donner les comptes journaliers à Matignon.
Oui, c'est une autre époque. Hein. Je me souviens que quand on partait en vacances, que mon père était Premier ministre, il prenait l'avion du gouvernement et nous, nous prenions le train. C'était tout à fait normal. Quand nous allions à l'école, il n'était pas question de prendre la voiture de Matignon, nous prenions le billet. Et je me souviens un jour, j'étais furieux puisque j'avais vu dans un journal satirique qui paraît le mercredi que j'arrivais au lycée avec une voiture officielle. Et donc j'arrivais avec mon Solex et du coup j'ai dessiné une grosse cocarde bleu, blanc, rouge que j'ai mis devant mon Solex. C'est une autre époque où on ne confond pas la vie privée et la vie publique, et on ne confond pas les deux.
Et le général de Gaulle avait deux compteurs électriques, ça fait partie du légendaire, et c'est peut-être même la vérité, un compteur privé qu'il avait fait installer à l'Élysée. Il n'a pas réussi, Michel Debré, à convaincre en tout le général de Gaulle, il n'a pas réussi à le convaincre d'intégrer dans la Constitution, la question du mode de scrutin. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de modifier la Constitution de l'État du rapport de force politique de 2014. C'est possible par une loi d'introduire, par exemple, de la proportionnelle.
Alors, si vous voulez, au lendemain de la guerre, le général de Gaulle a institué la proportionnelle, mais c'était dans un souci de réconciliation nationale. En 1959, j'ai retrouvé les documents, mon père souhaite que soit inscrit dans la Constitution le principe majoritaire. Alors, il ne choisit pas, mon père était partisan d'un scrutin majoritaire à un tour, mais il ne va pas jusque-là. Il dit, inscrivons le principe majoritaire, car la proportionnelle a tué la troisième, a tué la quatrième. Aussi, et tuera la cinquième si on l'applique. Pourquoi ? Parce que la répétition de la proportionnelle consiste à multiplier les partis, et donc il n'y a pas de majorité, il y a des majorités de circonstances, c'est-à-dire l'absence de majorité. Or, pour mon père, l'élection, le suffrage, doit permettre la constitution d'une majorité et d'un contrat de majorité. Au surplus, avec la proportionnelle, qui gouverne ? Ce n'est pas les grands partis, c'est le petit parti qui va pouvoir aller à droite, à gauche et monnayer ses voix. C'est ce qu'on trouve dans tous les pays du monde où il y a la proportionnelle.
Mais il est légitime quand même qu'une force comme le Front National soit représentée. Imaginons la proportionnelle introduite par François Hollande aujourd'hui comme Mitterrand l'a fait en 1986. Il y aurait un tiers d'extrême droite, un tiers de droite, un tiers de gauche. Ça nous ferait une assemblée ingouvernable, mais avec une représentation plus juste.
On n'arrivera jamais à s'entendre. Parce que quelle est la finalité d'un mode de scrutin ? Est-ce que c'est donner une photographie de l'opinion publique ? Alors là, il faut faire des photographies sans arrêt, puisque la photographie, elle peut se voiler. Ou est-ce que le mode de scrutin est de permettre la constitution d'une majorité pour permettre à un gouvernement d'agir ? Pour mon père, pour un certain nombre de constitutionnalistes, la finalité d'un mode de scrutin est le fait que le mandat dure pas trop longtemps est de permettre la constitution d'un gouvernement homogène qui gouverne au nom de la France.
Merci à vous, Jean-Louis Debray. Vous avez évoqué l'écriture de la constitution de la Ve République par votre père. L'émission était préparée par Ilinka Negulesco, Franck Olivard, Marion Philippe et Frédéric Martin. À la technique, Julien Dumont. Et la réalisation, c'était Jacques Sigal.